par les deux fenêtres qui sont en face de moi, les deux fenêtres qui sont à ma gauche et les deux fenêtres qui sont à ma droite, je vois, j'entends d'une oreille et de l'autre tomber immensément la pluie. Je pense qu'il est un quart d'heure après-midi. Autour de moi, tout est lumière et eau. Je porte ma plume à l'encrier et, jouissant de la sécurité de mon emprisonnement, intérieur, aquatique, tel qu'un insecte dans le milieu d'une bulle d'air, j'écris ce poème. Ce n'est point de la bruine qui tombe. Ce n'est point une pluie languissante et douteuse. La nue attrape de près la terre et descend sur elle serrée et bourrue, d'une attaque puissante et profonde. Qu'il fait frais, grenouille à oublier dans l'épaisseur de l'herbe mouillée la mare. Il n'est pas à craindre que la pluie cesse. Cela est copieux, cela est satisfaisant. Altérez, mes frères, à qui cette très merveilleuse rasade ne suffirait pas. La terre a disparu, la maison baigne, les arbres submergés ruissellent, le fleuve lui-même qui termine mon horizon comme une mer paraît noyée. Le temps ne me dure pas et, tendant l'ouïe, non pas au déclenchement d'aucune heure, je médite le ton innombrable et neutre du psaume. Cependant la pluie vers la fin du jour s'interrompt, et tandis que la nue accumulée prépare un peu plus son sombre assaut, tel qu'Iris du sommet du ciel fondait tout droit au cœur des batailles, une noire araignée s'arrête, la tête en bas et suspendue par le derrière au milieu de la fenêtre que j'ai ouverte sur les feuillages et le nord couleur de brou. Il ne fait plus clair, voici qu'il faut allumer. Je fais aux tempêtes la libation de cette goutte d'encre.
Bienvenue à vous, habitués de Transistor, tous ceux qui depuis maintenant un an, un mercredi sur deux, pleurent, tremblent, vibrent, sourient, ou même repassent leur chemise au son des voix de Caroline, Viviana, Camille et Willem. Bienvenue à vous, qui voulez entendre encore plus de bêtises, ou qui voulez simplement vous rincer l'œil en entendant répéter que ce n'est pas la taille qui compte. Quoi, je ne peux pas dire se rincer l'œil pour une émission de radio? Mais bien sûr que si, voyons, vous savez bien qu'ici, les yeux ont des oreilles. Vous l'avez compris à ma voix dégoulinante de bonheur, pour ce premier épisode de la deuxième saison, c'est l'eau sous toutes ses formes qui est à l'honneur. Et pour le plaisir de vos oreilles, j'ai à mes côtés Agère.
Bonjour.
Qui est une jeune spécialiste des lettres modernes et que vous allez entendre dans bien d'autres émissions cette année. C'est aussi elle qui vous a introduit cet épisode avec une lecture de Connaissance de l'Est de Paul Claudel. On ne présente plus Mathilde, notre secrétaire, transhistorienne de renom, transhistorienne, pardon, de renom et critique de talent dans En Spectateur. Juste à côté, une autre nouvelle arrivante, vous ne connaissez pas encore sa voix, mais vous avez déjà lu ses textes. Céline est angliciste et elle écrit des newsletters pour égayer vos mercredis.
Bonjour.
Il y a aussi Clément, à la régie, qui remplace avec brio et casque sur les oreilles Robin. Clément, lui, ne porte pas de t-shirt à analyser, mais ne s'en tirera pas pour autant. Enfin, notre invité star, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour, mais n'aurait pas pu non plus renaître cette année. Elle a bravé les éléments et les contrôleurs SNCF pour remonter de Nice, et elle n'est pas folle. Bonjour Caroline.
Bonsoir. Et celui qui complète ce quintet de voix, c'est Nicolas, un scienteux qui prend le pouvoir en littérature. Mais moi, je pense que c'est par amour pour Terry Pratchett.
Je crois que tu as raison, en fait. Exode 14, verset 20. Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres. Alors elle éclaira la nuit, et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, jusqu'au milieu de la mer. Or, au cours de la veille du matin, depuis la colonne de feu et de nuée, Le Seigneur observa le camp des Égyptiens et il mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. L'Égypte dit : Fuyons loin d'Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre l'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse : Étends la main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et ses cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à sa place habituelle, tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers. De toutes les forces du Pharaon qui avaient pénétré dans la mer derrière Israël, il ne resta personne, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Je ne sais pas si j'ai bien rendu le caractère sacré de ce passage, mais si vous avez eu l'impression d'être à la messe, je pense que l'objectif est atteint. Juste après la lecture, vous avez entendu « When You Believe », tiré du dessin animé « Le Prince d'Égypte », vous avez raté votre enfance si vous ne l'avez jamais vu, chanté par Whitney Houston. Alors l'eau, elle a une forte connotation sacrée, on la retrouve partout dans la Bible, mais pour les publicitaires aussi, l'eau est sacrée, le chiffre d'affaires aussi.
Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance.
Il me faut de l'eau. De l'eau. Petit Vittel. Petit Vittel. Mieux que ta mère pour croire que c'est de l'eau.
Bon, par contre, les publicitaires ne sont clairement pas les pros de la logique et de l'esthétisme. Quelqu'un qui connaissait, lui, son métier, et qui savait l'importance de l'eau en plein désert, c'est le grand aviateur Saint-Exupéry. Né en 1900, mort tragiquement en 1944 au-dessus de la Méditerranée, en plus d'avoir fait rêver les enfants et les adultes de toutes les générations depuis, il a écrit de nombreuses œuvres en rapport avec son métier d'aviateur.
Il souffle ce vent d'ouest qui sèche l'homme en 19h. Mon oesophage n'est pas fermé encore, mais il est dur et douloureux. J'y devine quelque chose qui racle. Bientôt commencera cette toux que l'on m'a décrite et que j'attends. Ma langue me gêne, mais le plus grave est que j'aperçois déjà des taches brillantes. Quand elles se changeront en flammes, je me coucherai. Nous marchons vite, nous profitons de la fraîcheur du petit jour. Nous savons bien qu'au grand soleil, comme l'on dit, nous ne marcherons plus. Au grand soleil, nous n'avons pas le droit de transpirer, ni même celui d'attendre. Cette fraîcheur n'est qu'une fraîcheur à 18% d'humidité. Ce vent qui souffle vient du désert. Et sous cette caresse menteuse et tendre, notre sang s'évapore. Nous avons mangé un peu de raisin le premier jour. Depuis 3 jours, une demi-orange et une moitié de madeleine. Avec quelle salive eussions-nous mâché notre nourriture? Mais je n'éprouve aucune faim, je n'éprouve que la soif. Et il me semble que désormais, plus que la soif, j'éprouve les effets de la soif. Cette gorge dure, cette langue de plâtre, ce raclement et cet affreux goût dans la bouche. Ces sensations-là sont nouvelles pour moi. Sans doute, l'eau les guérirait-elle, mais je n'ai point de souvenir qui leur associe ce remède. La soif devient de plus en plus une maladie et de moins en moins un désir. Il me semble que les fontaines et les fruits m'offrent déjà des images moins déchirantes. J'oublie le rayonnement de l'orange, comme il me semble avoir oublié mes tendresses. Déjà, peut-être, j'oublie tout. Nous sommes assis, mais il faut repartir. Nous renonçons aux longues étapes. Après 500 mètres de marche, nous croulons de fatigue, et j'éprouve une grande joie à m'étendre. Mais il faut partir. Le paysage change, les pierres s'espacent. Nous marchons maintenant vers du sable. À 2 kilomètres devant nous, des dunes. Sur ces dunes, quelques taches de végétation basse. À l'armure d'acier, je préfère le sable. C'est le désert blond, c'est le Sahara, je crois le reconnaître. Maintenant, nous nous épuisons en 200 mètres. Nous allons marcher tout de même, au moins jusqu'à ces arbustes. C'est une limite extrême. Nous vérifierons en voiture, lorsque nous remonterons nos traces, 8 jours plus tard, pour chercher le Simoun, que cette dernière tentative fut de 80 kilomètres. J'en ai donc déjà couvert près de 200. Comment poursuivrai-je? Hier, je marchais sans espoir. Aujourd'hui, ces mots ont perdu leur sens. Aujourd'hui, nous marchons parce que nous marchons.
Ainsi les bœufs, sans doute, au labour. Je rêvais hier à des paradis d'orangers, mais aujourd'hui il n'est plus, pour moi, de paradis. Je ne crois plus à l'existence des oranges. Je ne découvre plus rien en moi, sinon une grande sécheresse de cœur. Je vais tomber et je ne connais point le désespoir. Je n'ai même pas de peine, je le regrette. Le chagrin me semblerait doux comme l'eau. On a pitié de soi et l'on se plaint comme un ami. Mais je n'ai plus d'amis au monde. Quand on me retrouvera, les yeux brûlés, on imaginera que j'ai beaucoup appelé et beaucoup souffert. Mais les élans, mais les regrets, mais les tendres souffrances, ce sont encore des richesses. Et moi, je n'ai plus de richesses. Les fraîches jeunes filles, au soir de leur premier amour, connaissent le chagrin et pleurent. Le chagrin est lié au frémissement de la vie. Et moi, je n'ai plus de chagrin. Le désert, c'est moi. Je ne forme plus de salive, je ne forme plus, non plus, les images douces vers lesquelles j'aurais pu gémir. Le soleil a séché en moi la source des larmes.
C'est impossible.
L'eau ! Regardez !
L'eau est là !
L'eau ! L'eau est là !
L'eau en moi, c'est là !
Alors dans le désert, au cœur de l'Afrique, ou bien l'été sur la plage, quand aucun centimètre carré de peau ne doit dépasser de la serviette parce que sinon c'est brûlure grave due au contact avec le sable cuit par le soleil, l'eau est absolument indispensable. On ne vous cache pas qu'avec le froid qu'il fait, on a tous un sourire béat en studio en imaginant la situation de la serviette sur le sable chaud. D'ailleurs, quelqu'un peut monter le chauffage ? La vraie horreur, c'est quand on a besoin d'eau et qu'on en a à portée de main. Plus effrayant à imaginer que l'ongle de votre petit doigt dérapant sur un tableau noir, voici le supplice de Tantale version gars de la marine avec The Rime of the Ancient Mariner, lu par Caroline.
The breezes blew, the white foam flew, the furrow followed free. We were the first that ever burst into that silent sea. Down dropped the breeze, the sails dropped down, 'twas sad as sad could be, and we did speak only to break the silence of the sea. All in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand, no bigger than the moon. Day after day, we stuck, ni brave ni motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. Water, water, everywhere, and all the bores did shrink. Water, water, everywhere, ni any drop to drink. The very deeps did rot, O Christ, that ever this should be, ye slimy things that crawl with legs upon the slimy sea. About, about, in reel and rout, the death fires danced at night. The water, like a witch's oils, burned green and blue and white. And some in dreams assured were of the spirit that plagued us so. 9 fathom deep he had followed us from the land of mist and snow. And every tongue through utter drouth was withered at the root. We could not speak no more than if we had been choked by soot. Ah, well-a-day, what evil looks had I from old and young. Instead of the cross, the albatross about my neck was hung.